Alors, un autre environnement dans lequel on essaye tous de remettre de l'impact social, c'est l'entreprise, l'événement. Et Stanislas Surin, c'est comment on dit
Surin.
Alors
Surin,
pardon, absolument désolé, on ne se connaît pas. Donc toi, tu essayes de faire ça à travers ton entreprise qui s'appelle Novelty, et tu as une responsabilité de Magnum, tu as une responsabilité de... Pardon, tu as une responsabilité dans les RH, je crois.
Oui, alors je ne vais pas raconter l'histoire du groupe, mais bon, moi je suis DRH de la société Magnum, et je fais partie du groupe Novelty, entre autres.
D'accord.
Je vais avant essayer de raconter comment on en arrive dans un parcours. Il y a à peu près une dizaine d'années, il faudra m'excuser un petit peu sur les chiffres, on a monté un collectif qui s'appelait Éco-Événement, qui a été un petit peu... L'ADN, un peu, on a regroupé tous les intervenants de notre secteur, on a essayé d'un peu discuter ensemble sur les sujets du développement durable. Et puis, un des premiers sujets qu'on a évoqué, c'était le volet social, et tout le monde était un petit peu frileux pour y aller. Et moi, j'ai dit, écoutez, c'est pas possible, on trie, c'est bien de faire du tri des déchets, mais il y a un moment, on doit remettre l'humain au centre de notre modèle économique. Et pour ça, ben, il va falloir un peu s'engager, c'est pas facile, c'est vrai que c'est un sujet délicat, le social. Et après, ben, on a continué un petit peu l'histoire. Et puis, avec, je suis vice-président du Sympaz, et on a monté un label qui s'appelle Prestad. Et Prestad a voulu aussi, avoir les trois piliers dans sa démarche. Et c'est comme ça qu'on est, entre guillemets, je suis tombé dans la marmite. Et j'ai voulu mettre un petit peu ces différentes valeurs dans l'entreprise. Et pour mettre ces différentes valeurs dans l'entreprise, eh bien, on a commencé par balayer devant une porte. Et puis, il y avait le sujet du handicap. Et puis, bon, bah, c'est vrai que le handicap, c'est pas toujours facile à intégrer quotidiennement. Mais en fait, quand on s'aperçoit que, en fait, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, quand on ouvre un peu ses chakras et qu'on s'aperçoit qu'au final, les choses sont très simples, et qu'au final, au bout de quelques années, bah, nous, on est arrivé, l'obligation légale dans une entreprise de plus de 50, c'est 6%, on est arrivé à 8%. Sans forcer, de manière naturelle. Et aujourd'hui, les salariés ne font plus la différence entre quelqu'un qui a un handicap ou pas, s'il est visible ou invisible. Et qu'on s'aperçoit, c'est que c'est de la richesse. Et que cette richesse, elle se développe. Donc, on a voulu continuer un petit peu cette démarche sociale. Et puis, on avait un problème de sourcing. Alors, l'activité se développe. Il y a de plus en plus d'événements. Il y a besoin de compétences. Et on est en recherche de talents. Alors, quand on recherche des talents, bah, soit on prend des stéréotypes. Et puis, bon, bah, on trouve, ça c'est la solution de facilité. Soit on s'ouvre un petit peu et puis on va rentrer dans d'autres univers, moins connus, moins faciles, mais on va s'apercevoir que la richesse est encore là. Et puis, donc, historiquement, on a commencé à faire ce que j'appellerais du compagnonnage. Donc, on a pris des gens qui étaient potentiellement loin de l'emploi et puis on les a formés, on les a accompagnés. Ça, c'était la première étape. Et puis, après, on s'est dit, bon, on va s'appuyer sur des acteurs qui existent de la formation. Et puis, on a commencé à avoir des apprentis. Chez nous, on est 230 personnes, on a 25 apprentis. Donc, vous voyez que ces 10%, c'est assez important. Et puis, ça ne suffisait pas parce que, en fait, on va plus vite, les entreprises vont plus vite que les centres de formation. Et on avait eu besoin d'adapter les choses par rapport à nos besoins. Et du coup, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter une école. Et puis, monter une école, c'est un petit peu compliqué. L'école a fait la démarche, bravo. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre des gens qui sont loin de l'emploi et les faire venir sur nos besoins? Alors, bon, j'ai été voir, entre guillemets, la Direct, Pôle emploi, regarder un peu ce qui existait, et puis on a parlé des GEC. Un GEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Moi, je vous dis honnêtement, il y a un an et demi, je ne savais pas que ça existait. Et puis, bon, bah, j'ai commencé à me mettre dedans. On a monté un groupement d'employeurs. Ce groupement d'employeurs, il a été, on va dire, labellisé par la Fédération des GEC. Et puis, on s'est aperçu qu'il a fallu après recruter des gens. Donc, on s'est appuyé sur les apprentis d'Auteuil. Les apprentis d'Auteuil sont habitués à prendre des gens qui sont loin de l'emploi. Et puis, ces gens-là, eh bien, il faut les former. Donc, il a fallu faire ce qu'on appelle de l'AFEST. C'est l'action de formation en situation de travail. Donc, on a formé des gens en interne chez nous pour les accompagner vers nos métiers. Et puis, comme on voulait qu'un GEC, c'est groupement d'employeurs pour l'insertion, le I, et il y a le Q, qui est la qualification, on a monté un CQP d'électricien de spectacle. Et cette formation permet d'avoir des gens qui sont, au bout de 2 ans, qui ont un titre ou un diplôme, un CQP d'électricien de spectacle. Donc le but, c'est de créer un parcours qui correspond à la fois à nos besoins. Je suis entrepreneur, hein, donc on a besoin d'avoir des gens qui correspondent à nos métiers. Et ne pas être dépendant d'une source extérieure, de pouvoir maîtriser les gens, de pouvoir les accompagner au quotidien. Et le but étant de prendre des gens qui étaient bien sûr loin de l'emploi. Alors nous, on est à Gonesse, hein, ce n'est pas un bassin social très facile. Mais par contre, je peux vous dire que la richesse est là. On a aujourd'hui commencé et on a prévu ce que j'appelle des promos de 12 personnes. Donc là, on est sur la première promo. Et on va recruter, je dirais, on a déjà recruté 5 personnes, on va être sur 12. Et donc on prend des gens qui ont des parcours un petit peu chaotiques, des parcours personnels. On a des gens qui sont d'origine étrangère. On a des gens qui ont vécu le drame du Bataclan. On a plein de gens d'horizons différents. Et ces gens-là, on va dire, sont d'une richesse forte. Ça permet à l'entreprise, aux tuteurs, de découvrir d'autres univers, de partager les choses, et c'est très très enrichissant en interne. Ce qui est globalement, on va dire, ce parcours-là, on l'a fait. Je suis peut-être un peu long.
Non, il faut aller vers la conclusion, quoi. Tout doucement.
Oui, mais c'est tellement passionnant.
Bah oui, mais on aura l'occasion d'en discuter ailleurs.
Ce qui est important, c'est bien qu'on a construit ce parcours. Donc on prend des gens loin de l'emploi, accompagnés, je dirais, par les apprentis d'Auteuil. L'accompagnement, il est social. C'est-à-dire que c'est tout simplement, déjà, il faut un logement, il faut une écoute. Donc il y a cet accompagnement qui est fait sur les 2 ans. Après, il y a la formation à l'emploi qui est faite par les tuteurs ou les référents FES de l'entreprise. Et puis après, il y a un diplôme. Tout ça. Ça permet d'avoir des gens qui sont demain opérationnels, qui sont formés au bout de 2 ans et que demain, on va embaucher. Et donc ça, c'est fait de manière collective, parce que je ne suis pas seul. Il y a Magnum, Novelty, Duchaux, il y a 3 entreprises. C'est quelque chose qu'on va ouvrir et développer au secteur professionnel. C'est dans un premier temps régional et après, on espère que ce soit national.
Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup. Et en fait, c'est pas moi qui suis le plus pressant, c'est les signes de Béatrice Istam au premier rang et qui me lance des regards noirs quand ça devient trop long. Y a un principe qui est intéressant dans cette table ronde, dans ce format de conférence, c'est que Béatrice a demandé à la politique, la force politique, de venir réagir à tout ce qui se dit. Et effectivement, c'est fondamental parce que si on ne fait pas appel aux politiques, ou si la politique s'en mêle pas, on aura du mal à faire passer tout ça à l'échelle. C'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour le social, c'est vrai pour différents sujets. Donc j'aimerais appeler sur scène Olivier Noblecourt, qui est délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Et c'est vrai qu'il y a une responsabilité très importante, parce que les engagements du président de la République avaient été pour le moins très importants lors de son entrée au pouvoir. Alors qu'en est-il aujourd'hui et comment vous réagissez à tout ce qui est fait dans la société civile ? Et merci de votre présence.
Merci beaucoup de votre accueil. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, c'est un privilège pour moi de sortir de mon couloir de nage et d'être devant vous aujourd'hui avec des acteurs d'un champ de l'événementiel qui n'est pas celui auquel on pense le premier dans la lutte contre la pauvreté, mais vous venez de faire 3 démonstrations particulièrement brillantes de l'impact que vous pouvez avoir.
Très alors, politique.
Pardon ?
Non, je rigolais. Particulièrement si brillante. Suite, voilà.
Si vous commencez tout de suite comme ça, bon. Moi, je suis dépositaire d'une action collective un peu écrasante, qui est celle de faire reculer la pauvreté dans ce pays, avec l'idée que le président de la République a en effet exposée au début du mois de septembre, qu'il faut qu'on sorte de l'échec dans lequel nous sommes, pas faute de bonne volonté, pas faute de décisions de pouvoir public très importantes, mais parce que nous ne parvenons pas à endiguer une pente de notre société qui va de plus en plus vers le séparatisme social, qui va de plus en plus vers une culture de l'indifférence face à la souffrance des autres. Et en définitive, on a ce sentiment que les plans se succèdent, les stratégies, les beaux discours, mais que la réalité pour les plus fragiles, elle continue à se durcir. Et donc, il y a ce désenchantement dans le regard vis-à-vis des politiques sociales. Cette défiance, elle s'est exprimée par évidemment la colère des Gilets jaunes, mais elle a eu d'autres formes d'expression, des signaux faibles qu'on avait bien perçus auparavant et qui, encore une fois, ne datent pas d'aujourd'hui. Donc on a un modèle social qui est en crise, il faut avoir l'humilité de se le dire et l'affronter lucidement. Pour ça, on va pousser les feux, et je ne vais pas vous faire un discours politique maintenant, mais dans 2 grandes directions, les politiques de prévention, parce qu'on a des formes de pauvreté aujourd'hui qui touchent d'abord les enfants et les plus jeunes, et donc on a le pays de la reproduction sociale. Et puis on va investir sur les politiques d'accompagnement. Parce qu'il y a un grand paradoxe, c'est qu'on a augmenté la dépense sociale dans notre pays d'une manière considérable depuis 10 années, mais on a baissé la dépense d'accompagnement humain des plus fragiles. On l'a baissée. et en part relative, et même en valeur absolue, dans un certain nombre de secteurs. Ça veut dire qu'on a des gens qui sont livrés à eux-mêmes, qu'on a des gens qui se sentent abandonnés, des gens qui ont le sentiment qu'il n'y a plus de main secourable dans cette société. Et de ce point de vue, vous êtes, parmi d'autres, des acteurs essentiels, utiles, selon la force que vous mettrez dans l'impact que vous souhaitez avoir. Mais vous pouvez contribuer à toutes ces dynamiques d'accompagnement. Vous pouvez contribuer, évidemment, alors, quand j'entends parler d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, un GEC que vous avez suscité, créé, accompagné, je suis non seulement impressionné, mais j'ai envie de vous dire et de vous inviter tous à le rejoindre, parce que je pense que c'est une initiative merveilleuse. Quand j'entends qu'il y a des pratiques qui permettent de donner de la visibilité à des questions sociales qu'on tait, des questions sociales qu'on voit peu, et vous savez que, et je vais y venir, une des grandes difficultés de la question de la pauvreté, c'est sa visibilité sociale et la façon dont, aujourd'hui, beaucoup de personnes en France vivent mal les politiques sociales parce qu'elles ont le sentiment qu'en définitive, elles bénéficient toujours eux-mêmes et jamais à elles-mêmes. Et que donc, quelque part, les politiques sociales, pour une partie de ce qu'on appelle la classe moyenne fragilisée, donnent le sentiment qu'elles organisent, elles faussent la compétition entre ceux qui font des efforts, ceux qui méritent d'être aidés et ceux qui se complairaient dans, d'une certaine manière, la subsistance dans les prestations sociales. Et ça, pour affronter ces sujets-là, il faut donner une visibilité à des enjeux de la question sociale qu'on ne voit pas. Vous avez parlé de la situation des femmes à la rue, par exemple. Un très beau film, d'ailleurs, en ce moment, qui parle de la situation de ces femmes. On a des situations, par exemple, sur l'enfance à la rue. Il y a des très beaux clips de l'UNICEF où on voit, en effet, comment le regard sur les enfants, selon la façon dont ils sont habillés, est totalement différent sur l'espace public. Donc, on a des enjeux, et ces enjeux, ils sont structurants parce qu'ils donnent de la force à des politiques publiques. Par exemple, sur la question de la pauvreté des enfants aujourd'hui, c'est un axe central de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. C'était un sujet qui n'existait pas jusqu'à un rapport très important que Martin Hirsch a fait en 2004, qui évoquait d'abord la pauvreté des enfants. Mais ce n'était pas évoqué en tant que tel. Donc ces enjeux de visibilité, ils sont essentiels parce qu'une politique publique, elle doit s'adosser à une compréhension par l'opinion publique, sinon elle est condamnée à l'impuissance. On ne fait pas de politique publique contre les gens, ça n'est pas vrai, ça ne marche pas. Il faut être compris. Donc ces enjeux de visibilité, ces enjeux de récit, de storytelling, ce n'est pas un gros mot. Cette capacité à montrer aussi qu'il y a des réussites, elle est absolument essentielle. Mais il y a un point qui est peut-être encore plus important et que je voudrais me permettre de vous suggérer, c'est que dans les difficultés qu'on affronte dans la lutte contre la pauvreté, il y a des enjeux complexes, techniques, de dispositifs, d'automatisation des droits, d'accès aux droits, de type d'accompagnement, d'impact des politiques d'insertion, d'accès à la formation et à la qualification. Tout ça, on a aujourd'hui un engagement de l'État qui est totalement inédit. Je vous le donne, mais pour que vous l'ayez en tête, c'est 8,5 milliards dont les deux tiers vont être totalement dévolus aux politiques d'accompagnement qu'on va mettre dans les 4 prochaines années. Aujourd'hui, l'effort de tous les départements de France sur les politiques d'insertion, sur l'accompagnement humain, sur l'insertion, c'est moins de 700 millions d'euros. Donc vous voyez un peu l'effet levier qu'on va provoquer dans les prochaines années. Mais au-delà de ça, on a besoin de s'attaquer à deux phénomènes qui sont intrinsèquement liés. C'est le poids de représentation, je viens d'en dire quelques mots, et puis c'est d'une certaine manière la sédimentation de la vie sociale. Le fait qu'on est de plus en plus dans une société où on se croise entre pairs, où on s'homogénise culturellement, où on vit dans un entre-soi culturel et social. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'entre-soi social, il n'est pas tiré par les plus défavorisés, il est tiré d'abord par les plus favorisés. Et les logiques de ghettoisation de l'espace public, de l'habitat, c'est des logiques qui sont tirées d'abord par les ménages les plus aisés. Et ça crée, et à l'échelle des villes, et à l'échelle de la vie sociale, des organisations où finalement les gens ne se croisent plus. Les gens n'ont plus le temps d'échanger. Donc on vit sur la représentation de l'autre. On pense qu'on connaît l'autre parce qu'on a vu un reportage à la télé, parce qu'on colle des étiquettes. Donc il faut agir sur les représentations. C'est le rôle que vous avez lorsque vous construisez des récits, c'est le rôle que vous avez quand vous donnez de la visibilité à des réalités sociales qui déconstruisent les choses faciles, quoi. C'est trop facile de vivre avec 500 euros au RSA, les gens foutent rien, ils jouent à la PS4 chez eux, etc. Bon, il y a des reportages et il y a des films qui montrent que la dureté de la vie, la dignité aussi des personnes en situation de pauvreté. Il y avait un reportage très beau sur France Télévisions il y a un an qui montrait la situation d'enfants, notamment d'enfants qui économisaient pour se payer la cantine entre eux. Quand vous en êtes là, et quand vous donnez à voir cette réalité-là, qui est une réalité endémique dans notre société, hein, c'est 3 millions d'enfants qui sont pauvres aujourd'hui en France. 3 millions, un enfant sur 5. Qui voit cela ? Quand vous faites cela, vous agissez sur la déconstruction des représentations. Mais le plus utile pour déconstruire les représentations, c'est la rencontre directe entre les personnes. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui se passe parfois, pas toujours, mais dans les grands débats qui se tiennent actuellement. C'est ce qui s'est passé sur les ronds-points dans les Gilets jaunes, c'est que des gens se sont parlé alors qu'ils ne se parlaient plus. Et donc, vous avez un rôle majeur, vous me voyez venir dans tout cela. Parce qu'il faut travailler sur les lieux, il faut travailler sur l'espace public, sur l'habitat, sur les lieux du travail social, sur les lieux de la vie sociale. Un très beau sujet, on ne va pas en parler maintenant, mais la conséquence de la disparition des bistrots, par exemple, le fait que les gens n'ont plus de lieux pour se parler librement, boire un café et se mettre à tutoyer son voisin, ça, c'est des choses essentielles. Le rôle des bibliothèques de quartier, enfin, les lieux, mais il y a les temps de la vie sociale, les moments de la vie sociale. Et l'événementiel, c'est ce qui permet d'agréger des moments de vie sociale qui donnent du sens. On sait tous que quand on participe à un concert, à un colloque, à une conférence, quand on va voir une pièce de théâtre, un film, un beau film à plusieurs, bah, on partage quelque chose et on crée du commun. Et dans vos métiers, vous créez du commun. Vous créez du commun dans une entreprise, vous créez du commun dans des institutions, vous créez du commun sur des lieux, sur des territoires. Et ce commun-là, vous pouvez... dans la place qui est la vôtre, avec les commanditaires qui sont les vôtres, être davantage encore, j'imagine, et je ne donne le leçon à personne, à comment ce commun, bah, il est ouvert à tous, et il est ouvert à de la mixité sociale, il est ouvert à des publics fragiles, il est ouvert à des publics précaires. Comment on fait en sorte que la vie événementielle d'un territoire, elle nourrisse une matrice qui permette aux gens de se rencontrer, qui permette aux gens de tomber un peu entre leurs représentations, leurs frontières. Ça, c'est de la lutte contre la pauvreté très directe, parce que ça crée de la compréhension, ça crée de l'empathie, ça crée de l'acceptabilité aussi derrière de politique sociale. Et donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est pas un discours politique en vous disant « vous occupez de rien, on fait tout, on a un plan gouvernemental génial », et vous faire le panégyrique des différentes mesures. Ça, je vous invite quand même à aller consulter sur Internet si ça vous intéresse, vous verrez le contenu des mesures. J'ai envie de vous dire que ce que vous faites en tant qu'employeur et ce qui est porté là, c'est formidable. Ce que vous pouvez porter dans vos engagements sociétaux, c'est formidable aussi, parce que ça contribue à ces combats-là. Ce que vous faites dans votre activité quotidienne, ce que vous portez aujourd'hui, parce que vous créez du lien, eh ben, ça participe d'être une société où on est capable d'avoir un regard plus bienveillant sur les plus fragiles. Et l'enjeu de la lutte contre la pauvreté, il commence par ça, il commence par le changement de regard, et il commence par la capacité à recréer du commun. L'événementiel est un puissant levier pour cela, et donc c'est ce qui explique aussi pourquoi je tenais absolument à être parmi vous ce matin.
Merci. Merci beaucoup. Pour créer du lien social, comme vous l'avez très justement dit, il faut se parler, il faut interagir. Donc, je propose que s'il y a quelques questions pour l'un des quatre intervenants, vous puissiez les poser tout de suite. Donc, première question, on va essayer de les prendre par trois. Ne soyez pas timide, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de questions qui montent. Il y a forcément des questions à poser. Oui. Ah oui, ça, ce sera pour après. Je te remercie beaucoup, c'est très, très gentil. Alors, qui aurait une première question à poser? 7 ans de bonheur, bah, non, c'est fantastique, c'est plus septennat, mais c'est 5 ans de bonheur, peut-être. Alors, qui a des questions à poser? Une première question. Béatrice, tu veux poser une question, c'est ça que tu voulais? Non pas... Bon, alors, on va poser une question. Est-ce que vous qui êtes plutôt dans la société civile, les représentants de la société civile, est-ce que vous pensez que le lien avec la politique ou avec le gouvernement est suffisant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce fonctionnement, que ça fonctionne mieux, en fait, ce lien-là? Parce qu'on a besoin des politiques pour avancer.
Moi, je dirais déjà qu'il faudrait que...
Non, on le fera après, ne vous inquiétez pas.
Qu'il y ait plus de mise en avant des Merci. Bonnes pratiques. On parle souvent des choses qui ne marchent pas bien. On ne parle pas assez des choses qui marchent bien. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on mette en avant ça. Et je pense que le rôle du politique, c'est de mettre en avant ça. Et je prends l'exemple sur l'insertion. Il y a le prix Mosaïque RH qui a été décerné il n'y a pas très longtemps. On a eu la chance de recevoir
peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est Mosaïque RH.
Si Mosaïque RH, c'est une association qui met, on va dire, en avant une politique d'insertion. Et c'est à créer, on va dire, un prix à 3 ans.
Ouais, qui favorise le recrutement des personnes venant de la diversité ou
tout à fait.
Des banlieues.
C'est surtout la diversité. Mmh. Et comme il y a NQT, Nos Quartiers, Nos Talents, il y a toutes ces associations. Et je pense qu'on a besoin de focus. Je pense que les politiques doivent mettre des focus sur ces initiatives. Et je trouve qu'elles ne sont pas assez prégnantes. Et que là-dessus, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'énergie. De parler de bonnes pratiques, de parler de choses qui marchent. On parle trop souvent dans le négatif de toutes ces actions.
Très bien.
J'adhère à 400%, d'autant plus que j'ai eu pendant 15 ans des responsabilités de journaliste. Donc je vois bien à quel point il est très compliqué quand on est même soi-même journaliste, quand on est dans le monde des médias, que ce soit la radio ou la télévision, c'est très difficile de faire passer cette idée que quand on veut parler de ce qui marche, on n'est pas forcément juste un bisounours ou juste porteur de bonnes nouvelles. Et je pense qu'il y a un gros travail qui reste à faire pour essayer de montrer qu'effectivement, il est absolument nécessaire aujourd'hui, parce qu'on le sait, nous sommes quand même un des pays les plus déprimés au monde. On a identifié les causes, c'est certainement à cause de nos médias, mais aussi à cause de notre éducation. Oui. Voilà, ça vient vraiment de l'école. Et donc je pense qu'il y a une responsabilité civile de nous tous. Il ne faut pas juste se dire « c'est aux médias de tout faire ». Je pense que c'est à nous tous d'avoir cette responsabilité collective, d'être porteurs de ces nouvelles qui sont des nouvelles constructives, inspirantes et stimulantes, etc. Et je pense qu'effectivement, quand des choses se passent bien, que ce soit le fait des politiques publiques, on ne fait pas forcément la pub du gouvernement quand on dit qu'il y a telle et telle chose qui se passe bien. Quand on parle de ce que font effectivement des acteurs, des ONG, etc., c'est pas forcément faire la pub d'une ONG. Voilà. Donc je pense qu'il y a une grosse responsabilité qui est de nous tous. Et je pense que les choses vont changer petit à petit. Hier, il y avait un très bel événement, les éclaireurs des quartiers au Théâtre du Rond-Point, où s'exprimaient notamment Julien de Normandie et beaucoup, beaucoup de jeunes, c'est générationnel. Donc moi, je place beaucoup d'espoir dans la nouvelle génération.
On voit ce qu'ils font aujourd'hui. Les fameux millennials.
Il y avait sur la scène des gens qui, comme ici, racontaient des parcours. C'est l'anti-grand débat national, je trouve. C'est pas des gens qui viennent se plaindre et raconter qu'il y avait des choses à faire absolument impossibles, plus de dépenses publiques, etc. C'est plutôt des gens qui racontaient leur parcours d'entrepreneur ou à la tête d'association. Et c'était très inspirant, comme vous le faites ici. Et c'est justement la force de l'événementiel, de cette capacité à inspirer. Donc, excusez-moi d'avoir été un peu longue, parce que cette question me tient à cœur depuis plus de 20 ans, d'essayer de faire passer les messages optimistes et stimulants, créatifs. Une information non anxiogène, juste et vérifiée, c'est le rôle de nous tous, et c'est le rôle des médias, bien sûr. Et puisque vous nous parliez justement de comment est-ce qu'on peut changer les choses, c'est un peu ce qui me tient à cœur avec mon attachement au monde de la culture. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire rêver. Il faut imaginer de nouveaux héros. Et ces héros peuvent être des champions, des sportifs, des chefs d'entreprise.
Pourquoi pas des politiques ?
Pourquoi pas des politiques ? Voilà. Mais en tout cas, et des artistes. Mais en tout cas, voilà. Et monsieur tout le monde, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Et faire rêver, c'est très, très important. Il faut garder de l'espoir. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de jeunes qui n'ont plus d'espoir. Et ça, c'est pas possible.
Alors, c'est une question très, très compliquée, enfin, je trouve, parce qu'en fait, il y a les faiseurs et les diseurs. Enfin, moi, je le vois plutôt comme ça.
Oui,
et ce que vient nous démontrer Olivier, c'est que les politiques deviennent et diseurs et faiseurs, en fait. Et il y a peut-être une déconnexion parfois avec la société civile. Alors, sur les gouvernements en place depuis 10 ans, il y a eu une véritable volonté des politiques de montrer les solutions qui marchent pour les polliniser. Il y a eu la France Engage, il y a le French Impact aujourd'hui, qui valorise en fait des initiatives du territoire qui peut se propager au niveau national. Mais c'est vrai que, en tout cas, côté One Art, on a l'impression que c'est toujours un peu les mêmes, un peu toujours les personnes qui sont dans les grands salons et qui savent très bien faire ce qu'on appelle les 10 heures, en fait. Excusez-moi. Mais c'est vraiment,
non, mais c'est
vraiment
je partage
ça.
Complètement
et
pour
en fait,
ce que
du
dis,
coup, il y a une déconnexion avec les personnes qui sont au fond de la mine et qui travaillent au charbon tous les jours. Pour la connexion sociale est indispensable, et je pense que les Gilets jaunes ont démontré qu'il y avait une déconnexion du lien social, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, il y a une nouvelle communauté qui s'est créée autour des ronds-points, qui est forte, et qui ont du mal en fait, à partir, parce que ça a apporté le lien social, et ça permet aussi de mieux dialoguer avec les politiques. Et je pense que c'est vraiment comment concilier les diseurs et les faiseurs, et ça, je n'ai pas la réponse, j'aimerais bien l'avoir un jour.
Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le French Impact. C'est un petit peu comme la French Tech, mais dédiée aux initiatives qui essayent ou qui tentent ou qui ont un impact social et environnemental. Et c'est vrai que les 10 premiers qui ont été sélectionnés, ou les 5 premiers...
Il y en a 10, oui.
Il y en a 10, mais il avait déjà au moins 12 salariés, tant de chiffres d'affaires, donc
ça
remettait en avant ce qui était déjà en avant.
C'est le haut-commissaire Christophe Ittier de l'économie sociale et solidaire, qui ont valorisé en fait, des initiatives qui sont déjà très ancrées dans les territoires et à succès. Ils ont voulu véritablement, enfin c'était l'objectif, nommer les lauréats d'entreprises qui ont déjà un certain notoriété, un modèle économique fort pour en faire des licornes européennes de l'économie sociale et solidaire. Donc, voilà, ça c'était l'ambition. Mais après, bon, il s'est passé, enfin, je ne vais pas parler du gouvernement, mais enfin, finalement, ils s'occupent moins des associations, plus des entreprises sociales. Enfin, voilà, c'était un peu. Déjà, c'était compartimenté, en fait, le bien commun entre entreprises sociales et associations, alors que le bien commun, c'est l'affaire de tous, en fait, et de nous tous. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, d'où faire et dire en même temps, c'est pas évident, c'est un gros challenge.
Alors, Olivier, monsieur le délégué interministériel, comment réagissez-vous à tout ça ?
Moi, d'abord, je suis ravi de ce qui vient d'être dit parce que je suis un faiseux de province et du terrain depuis 20 ans, donc c'est de là que je viens. Mais j'ai participé aux belles aventures qu'on avait faites avec Martin et d'autres en créant l'Agence Nouvelle des Solidarités Actives, La France s'engage, enfin, toutes les initiatives des 15 dernières années. J'en ai été partie prenante dès l'origine et c'est un peu une tarte à la crème du social et en général de dire comment on essaime les bonnes pratiques, etc. Et en même temps, c'est un enjeu totalement central parce qu'on voit tous les jours des choses qui marchent et donc il y a un côté, comment dirais-je, révoltant à avoir ce sentiment que certains trouvent des solutions et qu'on est incapable de les diffuser. Il y a un autre sujet que vous avez évoqué qui est important, c'est la visibilité de ce qui marche, mais qui est un sujet connexe. Alors les deux sont un peu liés, mais il y a le fait qu'en France, on aime bien parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Bon, ce n'est pas que franco-français, mais c'est vrai que c'est difficile de porter de l'information positive dans le système actuel et que les médias sociaux et que les réseaux sociaux amplifient en plus, évidemment, le côté où on va chercher ce qui ne marche pas. Deuxième point, c'est donc cette espèce de pierre philosophale qu'on cherche tous, c'est le moyen d'essaimer les bonnes pratiques. Alors, certains poursuivent des ambitions, notamment ce que fait Christophe en effet sur French Impact. Lui, sa logique, c'est l'accélérateur de croissance pour des dispositifs qui ont déjà, pour la plupart, été tous labellisés dans l'ensemble des labels d'essaimage de bonnes pratiques des 20 dernières années ou des 15, des 10 dernières années pour les plus récents. Donc, l'enjeu là, c'est la croissance. Hein, c'est le passage de la PME à la grande boîte. C'est à mon avis un enjeu décisif. Nous, ce qu'on essaie de faire du côté de la stratégie contre la pauvreté, c'est deux choses. D'abord, on met en place un modèle d'essaimage, des solutions associatives qui fonctionnent bien. Vous en connaissez une parce que vous avez forcément entendu parler de territoire zéro chômeur de longue durée. Ça, c'est une initiative que nous allons déployer sur 50 nouveaux territoires. Mais il y a d'autres dispositifs. Vous connaissez certainement ceux qui sont parisiens, Lulu dans ma rue. On va déployer, qui permet à des gens de se mettre dans une situation d'auto-entrepreneur et de trouver à la fois du boulot et de sortir... justement pour beaucoup d'entre eux, pour plus d'un tiers d'entre eux, des allocations. Donc on a, pas entrer dans un système qui s'appelle tapage, je ne sais pas si ça vous parle, c'est travail alternatif payé à la journée, c'est plutôt des gens qui sont dans l'addiction, qui ont des problèmes extrêmement lourds et qu'on accompagne très progressivement vers l'emploi. Bref, tout ça, on va les essaimer. Et donc on a, nous aussi, une petite structure qui va permettre de faire de l'essaimage avec un point intéressant, c'est qu'on ne labellise pas cette fois-ci, on part des besoins sociaux identifiés et on donne les moyens pour financer la croissance, tout simplement. On fait dans l'autre sens. Donc il n'y a pas d'appel à projet, il n'y a pas de. On prend ce qui marche, on finance le besoin de croissance exprimé par les acteurs. Mais comme je suis plutôt un praticien de terrain, ma conviction, c'est qu'en fait, il faut qu'on sorte de l'idée qu'on va avoir un grand dispositif national en la matière. Je pense qu'il faut qu'on fasse confiance aux acteurs des territoires pour le faire eux-mêmes. Et le pas de côté qu'on essaie de faire en termes de mode de portage des politiques sociales, et c'est très récent puisque ça date d'avant-hier, c'est qu'on a présenté à tous les acteurs, j'ai réuni une communauté de 500 acteurs qui sont les animateurs de la stratégie de lutte contre la pauvreté sur les territoires et qui représentent plus de 5000 personnes qu'on a déjà mobilisées. Et ils vont être tous mis sur une plateforme numérique collaborative où ils vont construire ensemble les solutions et où ils vont diffuser entre eux les bonnes pratiques, mais à l'échelle territoriale. Parce que c'est plus facile de le faire avec des gens qui sont en proximité, qui peuvent venir. Il faut que le benchmark entre acteurs, entre associations, entre collectivités, il soit à portée. Alors, il est rendu fluide, facile par le numérique. Après, dans le travail social, il faut se rencontrer, il faut venir sur le terrain, il faut travailler ensemble. Et donc, on a, je ne vais pas vous l'exposer ici, ce serait beaucoup trop long, mais tout un processus aujourd'hui, finalement, d'horizontalisation du pilotage et pour faire en sorte que ce soit un mode collaboratif de mise en œuvre des politiques publiques qui soit mis en place et plus seulement un mode descendant, ce qui a été le grand échec des précédents plans qui tous ont prétendu territorialiser, c'est un mot que j'aborde, ça ne veut rien dire territorialiser, les acteurs des territoires, ils n'ont pas besoin qu'on les territorialise, ils ont besoin qu'ils fassent eux-mêmes, ça c'est vraiment une vision technocratique centralisatrice. Donc, l'idée c'est de leur donner les clés vraiment, on y met des moyens d'ailleurs totalement inédits et juste un petit point, c'est que dans les acteurs qu'on réunit, il y a évidemment des entreprises. Évidemment, il y a un groupe à chaque fois, dans chaque région, on a un groupe d'entreprises qui porte la stratégie. Et donc, s'il y a des acteurs de l'événementiel qui, dans les régions, veulent venir travailler avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous tapez stratégie pauvreté.gouv sur Google, vous allez nous trouver tout de suite. Et vous aurez, alors on ouvre la plateforme de manière plus large dans une quinzaine de jours, vous aurez la possibilité de venir vous inscrire, vous aurez des identifiants, vous aurez accès à tous les éléments partout en France et vous pourrez contribuer sur le territoire sur lequel vous agissez avec un petit groupe déjà constitué de communautés d'acteurs. Je crois que c'est logique de communauté d'acteurs territoriales et je crois que c'est comme ça que progressivement en fait on va diffuser les bonnes pratiques par la capillarité entre acteurs et pas uniquement par les grands plans descendants.
Merci pour cette intervention. Une petite question de la salle éventuellement ? Là, et on en prendra qu'une, on devra conclure.
Oui, bonjour, oui. J'ai une question pour Isabelle Giordano. Bonjour. Moi, je travaille pas mal avec les médias. Et de votre expérience, donc, c'est un peu ce qu'on voit beaucoup, c'est que les médias parlent souvent de ce qui ne va pas. On a du mal à faire passer, enfin, ça commence, hein, on commence à faire passer des messages un peu plus positifs, des solutions, etc. Il y a pas mal d'initiatives dans ce sens. Mais qu'est-ce qui, selon vous, peut freiner finalement les rédactions, le fait que en France, c'est quand même assez symptomatique de la France de toujours parler de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui pourrait faire changer ça voilà, au niveau vraiment des médiatiques. Merci.
J'ai pas la recette miracle, je la cherche encore, mais je suis très optimiste. Je pense que le digital est une vraie opportunité, de la même manière que M. Noblecour vient nous expliquer comment une plateforme collaborative peut faire circuler de l'information. Moi, je crois beaucoup justement aux nouveaux médias, à Brut, Combini, qui font circuler une information un petit peu différente quand même que celle qu'on voit traditionnellement. Je crois beaucoup aussi à tous ces organismes que vous connaissez peut-être, Reporters d'Espoir, Spark News, Ashoka, etc. Voilà, il y a des porteurs aussi. Alors peut-être que parfois certains d'entre eux se sont justement enfermés dans ce côté bonne nouvelle, et je pense qu'il ne faut pas. Il faut juste raconter la France telle qu'elle est aujourd'hui. Et la France d'aujourd'hui, elle est faite de gilets jaunes, mais elle est faite aussi de gens qui font énormément de choses. Et on n'est pas si malheureux que ça. Moi, je voyage beaucoup, c'est mon métier. Et je vois que, voilà, quand aux États-Unis, quand on a besoin de faire une prise de sang, que ça coûte 1000 dollars, je pense qu'effectivement, c'est ça aussi qu'on pourrait raconter en France et qui pourrait changer aussi un petit peu les mentalités, du moins certaines mentalités. Même s'il reste des injustices sociales et qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire pour changer notre pays. Concernant l'information, moi, je suis vraiment quelqu'un qui croit beaucoup au service public. Je ne sais pas pour rien que j'ai eu une émission qui s'appelait « Service public » pendant 5 ans. Donc je crois beaucoup à tout ce que l'on peut faire avec une information qui vient à la fois de Radio France et France Télévisions. Mais là aussi, il y a un gros travail à faire. Et c'est vous, là encore, je pense que c'est aux gens du terrain, aux associations, de faire passer leur message. Je sais qu'à Télécarmonde, ils sont très bons, les communiqués de presse, etc. Je pense qu'il y a un gros travail à faire, mais qui est de notre responsabilité collective. Mais je reste persuadée qu'effectivement, il y a encore un petit caillou dans la chaussure. Peut-être un dernier point, parce que moi, je pars toujours à la source. Il faut revenir aussi aux écoles de journalisme. Moi, j'ai des copains qui sont au point. Ils se sont fait une règle, c'est de plus jamais embaucher quelqu'un qui sort d'une école de journalisme. C'est prendre des gens curieux qui viennent de toutes sortes de parcours, des parcours de diversité, exactement comme le fait Mosaïque RH. Donc, j'ai rien contre les écoles de journalisme, mais là encore, il faut s'interroger sur pourquoi ils sont comme ça. Pourquoi les journalistes nous racontent le monde de cette manière ? Après, il y a plein d'autres facteurs dont je pourrais vous parler. La paupérisation du métier, effectivement. Le métier tel que je l'ai connu quand j'ai démarré, il y a 30 ans, il n'est plus le même aujourd'hui. Mais en même temps, je vois aussi des tas de jeunes qui racontent le monde. Effectivement, n'importe qui peut raconter le monde à sa manière, comme le fait Laure, etc. Donc voilà, il y a encore des choses à faire.
Bien, merci beaucoup. Il y a la Street School qui essaye de former des jeunes venus de la diversité au journalisme. Merci beaucoup pour ces interventions et pour ce lien. Vous devez partir, Olivier, donc on vous laisse quitter le plateau. Merci beaucoup à tous les quatre de cette intervention. On va faire une petite pause d'à peu près 25 minutes et puis après on aura la chance d'accueillir les enfants, la nouvelle génération qui porte cette réinvention et qui la portera, j'espère, pour longtemps. Et on peut les applaudir déjà, voilà. Puis on les retrouve après la pause.